Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
15h30 sur Radio Immo, Radio Territoria, nous faisons vivre cette troisième et dernière journée du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, ici au Carrousel du Louvre. Composition, réduction des émissions de gaz à effet de serre, durabilité, performance, réglementation, innovation technologique, aspect économique. Dans cette émission, eh bien, je vous propose de parler de ciment bas carbone et de ses avantages. Bonjour et bienvenue Laurent Leguet.
Merci, bonjour.
Vous êtes directeur marché et offre du groupe Vika. Vika qui propose une offre de béton bas carbone pour répondre justement aux besoins de réduction d'impact carbone dans la construction. Est-ce qu'on peut détailler les différents niveaux de performance carbone proposés par le béton DECA et comment ils répondent surtout aux exigences de la RE 2020?
Oui, alors chez Vika, on a défini un label qui s'appelle DECA, qui nous permet d'identifier notre offre bas carbone à la fois sur les ciments et sur les bétons. Et l'offre bas carbone béton est décomposée en 4 niveaux aujourd'hui, DK1 à DK4, qui permet de grader en fait la réduction carbone qui correspond à ces offres-là. Alors, on parle de réduction carbone. Moi, je vous invite quand même à regarder en valeur absolue les poids carbone des bétons par mètre cube et pas les pourcentages de réduction. Vous savez, c'est un peu comme les soldes. C'est pas la remise qu'on achète, c'est le prix qu'on paye à la caisse. C'est ça qu'il faut regarder.
Bon, est-ce que malgré tout, vous pouvez détailler les différents niveaux de performance carbone proposés par le béton?
Voilà, vous avez le niveau DK1 qui vous permet de gagner 10 à 20%, DK2 qui vous permet de gagner de 20 à 30%, DK3 de 30 à 50% et DK4 au-delà de 50%. Sachant que le poids carbone de référence d'un béton courant aujourd'hui, donc d'un béton pas le plus carboné qu'on puisse trouver, mais celui qu'utilisent les entreprises au quotidien si on parle pas de bas carbone, vous êtes autour de 200 kg de CO2 par mètre cube. Et donc, vous appliquez les réductions que je viens de vous décrire à ce chiffre-là.
Alors, quels sont les secteurs et les applications finalement spécifiques pour lesquelles le béton DECA est actuellement disponible?
Alors, il est disponible de manière générale pour l'ensemble des applications. Après, les gains vont dépendre des contraintes. C'est-à-dire que sur le bâtiment, vous avez la RE 2020, vous l'avez dit, qui impose un certain nombre de contraintes sur le poids carbone au mètre carré. Et la structure prend sa part de responsabilité dans la réduction des émissions de CO2. Et donc, on a des offres de béton de structure qui permettent de tenir les seuils d'aujourd'hui et de demain. Dans le domaine de la préface, c'est la même chose. On a une offre de ciment qui permet de réduire les émissions de CO2 dans le processus de préfabrication, qui est un peu différent de ce qui se passe sur chantier, puisque vous êtes dans une logique industrielle sur le monde de la préfa, avec des temps de prise ou de démoulage qui sont contraints. Et puis, vous avez aussi la dernière dimension, c'est le génie civil, qui lui aussi apporte des contraintes mécaniques et pour lesquelles on apporte des ciments un peu particuliers. Ils sont généralement plus carbonés ceux-là et on fait tout ce qu'on peut pour progressivement réduire leur impact carbone. Mais on a des considérations qui sont des considérations de durabilité, comme par exemple des ouvrages qu'on construit en ce moment. Un des grands ouvrages du moment, c'est le tunnel entre Lyon et Turin pour la future ligne de chemin de fer à grande vitesse qui est un ouvrage qui va durer des décennies. Quand on est à mi-chemin, on sera à peu près à 30 km de chacune des extrémités du tunnel. Évidemment, ce qui prime, c'est d'avoir des bétons de qualité irréprochable pour assurer la sécurité des passagers.
Béton DECA.
Donc là, on n'est pas en DECA sur ce type
d'ouvrage. Alors par contre, on l'était sur le premier bâtiment autonome de France à Grenoble.
Oui, alors à l'époque, on n'avait pas inventé DECA, mais effectivement, le bâtiment ABC réalisé par Bouygues à Grenoble qui réunissait un certain nombre d'objectifs environnementaux. Il y avait l'autonomie dans l'usage de l'eau, de l'électricité, donc vous avez des grands panneaux photovoltaïques en toiture. Effectivement, nous, on a apporté des bétons bas carbone, un béton bas carbone qui était fabriqué sur notre cimenterie de Créchy, qui est bas carbone parce qu'en fait on vient substituer une partie du clinker qui est le matériau qui porte le poids carbone dans un ciment et donc dans le béton par de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche naturelle, c'est-à-dire que les volcans d'Auvergne ont travaillé à produire une roche qui va avoir des propriétés chimiques qui nous intéressent pour faire du ciment, mais dont le poids carbone en fait est très réduit puisqu'il suffit de l'extraire du sous-sol pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc le poids carbone est très limité.
Est-ce qu'on peut citer comme ça un autre exemple d'ouvrage où on a utilisé effectivement le béton d'Eka?
Alors il y en a plusieurs, notamment vous avez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, vous avez le village des athlètes,
oui,
sur lequel il y avait des objectifs environnementaux très importants, pour lequel on a implanté le temps du chantier une centrale à béton qui a alimenté 3 clients sur l'ensemble des projets qu'il y avait sur le site. Je crois que c'était un des plus grands chantiers de France à l'époque. Donc on a fourni 70 000 m3 de béton bas carbone avec des objectifs différents suivant les projets et qu'on a tenu sur les 3 chantiers sans les mettre en retard, puisque qui dit béton bas carbone peut souvent sous-entendre dans l'esprit de certains des bétons qui sont plus lents à prendre, donc des cycles de rotation sur les chantiers qui sont ralentis. Pas vrai avec nos solutions, puisque on a adapté les formules en fonction des conditions de coulage. On a accompagné nos clients sur la sélection de la bonne formule en fonction de la période de mise en œuvre, et on a suivi semaine après semaine l'ensemble du carbone qu'on venait embarquer dans la structure des bâtiments pour vérifier que on allait converger vers un objectif carbone qui soit inférieur à ce qui avait été demandé par le client.
Et vous continuez à faire des ouvrages avec du béton entre guillemets dit traditionnel?
Oui, il en reste. Vous avez encore des bâtiments qui se construisent, qui sont avec des permis de construire RT 2012 et qui n'ont pas d'objectif carbone particulier. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de s'épuiser. Mmh. Et évidemment, le sens de l'histoire, c'est de décarboner. Donc la proportion de nos ventes de DK est en croissance dans notre mix produit.
Justement, vous parlez de croissance. J'avais demandé quels étaient vos objectifs de développement sur cette partie-là, en fait.
Alors, sur la partie bas carbone, c'est un de nos leviers stratégiques. Si ce n'est le plus important, on déploie la territorialité de notre offre bas carbone, puisque on a une approche, je ne sais pas si vous le savez, le ciment et de manière générale le béton sont des matériaux qui voyagent peu. On est sur des logiques de livraison de ciment sur des rayons de 150 km en moyenne autour d'une cimenterie. Mmh. Le béton, il fait maximum 30 km, la distance moyenne, c'est plutôt 15. Ouais. Donc on est sur des approvisionnements locaux. Pour autant, les solutions de décarbonation, elles doivent aussi être locales. C'est-à-dire que quand on remplace du clinker, comme je vous le disais tout à l'heure, on vise à le remplacer par des matériaux qu'on va trouver autour de la cimenterie et pas à des centaines ou des
milliers. Vous favorisez quelque part l'économie circulaire, quoi.
Donc on est sur une logique d'ancrage territorial profond, de circularité, effectivement. Et donc, on développe pas les solutions de la même manière. Là, aujourd'hui, typiquement sur la région Grand Est, on est en train de mettre en œuvre une installation industrielle qui va permettre d'activer des argiles thermiquement. Donc on va fabriquer de la pouzzolane artificielle. Et dans la première moitié de l'année 2025, nous aurons sur notre cimenterie Xeuillet une nouvelle offre à disposition du marché du Grand Est et aussi du marché parisien.
Est-ce qu'on parle un peu d'innovation aussi avec Lithosis, l'impression 3D béton?
Oui, alors Lithosis, c'est passionnant. C'est une technologie de fabrication additive, ou 3D, où on vient déposer une encre qui peut elle également être décarbonée. Mais l'intérêt de la 3D, c'est à la fois de faire des formes géométriques pour lesquelles on n'a pas besoin d'outillage, pas besoin de coffrage, contrairement à du béton classique. On a une grande liberté de forme, et pour autant, on s'efforce de réduire la quantité de matériaux mis en œuvre. La 3D, on le voit comme un vecteur de décarbonation de ce point de vue-là, cumulé avec le poids carbone de l'encre, si je peux parler comme ça, qu'on vient utiliser. Donc on a beaucoup d'applications, on en découvre encore sur l'impression 3D et je pense qu'on ne les connaît pas encore toutes.
Ouais, c'est une belle filière d'avenir là. Oui, oui. Aussi. Les opportunités de carrière offertes par Vika dans le domaine justement des matériaux de construction bas carbone, quelles sont-elles?
Alors elles sont nombreuses, elles sont beaucoup dans, on est des industriels, on fabrique des matériaux de construction, donc elles sont beaucoup dans la production, à travers l'exploitation de carrière, la fabrication du ciment et la production de béton prêt à l'emploi, mais on a aussi des équipes de R&D, on a aussi des acheteurs, on a aussi des ressources humaines, on a des marketeurs, des commerciaux, donc elles sont très larges à l'échelle d'un groupe qui fait au niveau mondial un petit peu moins de 10 000 personnes.
Ouais, donc le groupe recrute en permanence.
Donc on recrute en permanence, oui.
Ok. Est-ce qu'on parle de l'héritage aussi Louis Vika? Louis Vika, donc l'inventeur du ciment artificiel, en quoi il inspire, je dirais, les innovations d'aujourd'hui?
Louis Vika, c'est un inventeur. Hein. Ouais. Je vous ramène un peu plus de 200 ans en arrière. En 1817, vous avez donc Louis Vika, jeune polytechnicien, qui est envoyé à Souillac pour construire un pont. On est à la fin des guerres napoléoniennes. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Et on demande à Louis Vica de construire ce pont de manière efficace. Il fait des recherches sur les liens hydrauliques, comment on obtient à partir de matériaux minéraux quelque chose qui permet de faire une forme de colle quand on y rajoute de l'eau. Il trouve une formule. Dans son esprit de chercheur scientifique, il ne brevette pas cette invention-là.
Ah oui. On sait pourquoi d'ailleurs.
Il y avait une logique de rendre à la nation française ce qu'elle lui avait donné, puisque ses études à l'école polytechnique avaient été financées de manière gratuite, si j'ose dire. Ouais. Et voilà, il y a cette philosophie de retour. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on parle de ciment, parfois on parle de ciment Portland, où effectivement, vous avez eux, des Écossais, qui ont breveté une invention qui, en fait, est postérieure à l'invention de Louis Vica. Mm. Donc, vous êtes dans le monde de l'innovation ouverte avec Louis Vica et le monde de l'invention protégée, la propriété intellectuelle avec Portland. Ouais.
Est-ce qu'il y a des implications justement du fait de ne pas avoir voulu breveter ça ?
Alors, des implications aujourd'hui non, parce que de toute façon les brevets seraient expirés, donc c'est plus un sujet. Il y a des sujets d'invention aujourd'hui, puisque on est dans une logique permanente d'amélioration de nouveaux matériaux, d'amélioration des caractéristiques des matériaux. Le carbone, on en a parlé, mais la durabilité des ouvrages, c'est aussi un vrai sujet. Donc on a une équipe de R&D très active et qui est inspirée, puisque c'était votre question, par l'héritage de Louis Vica et cet esprit d'invention qui a donné lieu, alors pas à la société, c'est pas Louis Vica qui l'a monté, c'est son fils, et depuis on est une entreprise familiale, on est à la septième génération de l'entreprise.
Ouais. D'accord, ok. Ce sera ma dernière question finalement. Pourquoi c'est important, et même si la réponse peut paraître évidente, mais pourquoi c'est important pour Louis Vica d'être présent sur ce type d'événement, le CIPCA?
Parce que vous avez dans cet endroit et sur cette temporalité un grand nombre d'acteurs qui sont engagés dans la décarbonation de la construction de demain, quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur. Et c'est important pour nous, effectivement, de représenter la filière minérale ou cimentière nous concernant, et de montrer qu'on est en mouvement, qu'on apporte des solutions qui permettent de construire aujourd'hui, mais qui permettront également de construire demain.
Un grand merci, Laurent Leguet, d'être venu sur ce plateau.
Merci
d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. On continue à vous faire vivre cette troisième édition et cette troisième et dernière journée du CIPCA, une émission que vous pouvez suivre sur Radio Imo et Radio Territoria, également disponible en replay sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Salut.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria.